Okay. Hello and welcome. My name is Charmaine Lin. I am the director of the Office of Admissions, Equity, and Diversity in the Faculty of Medicine. I'm delighted to see so many of you here and delighted to know that we have a few more of your colleagues on hand by the magic of the internet. Je m'appelle Charmaine Lin, je suis la directrice du Bureau des Admissions de l'Équité et de la Diversité dans la Faculté de Médecine à McGill. Et au nom de la Faculté et de l'Université McGill, je vous souhaite un chaleureux bienvenue. Nous sommes ravis de vous voir en si grand nombre aujourd'hui. Nous avons à peu près une heure ensemble. Ça va être une présentation bilingue. J'imagine que ça va pour tout le monde, français, anglais, mais je ne traduirai pas. Pas nécessairement, mais les slides sont, je pense que la plupart des slides sont bilingues. So all of the slides are bilingual. If you have any clarifications or need any clarifications in English or in French, don't hesitate to let us know. So we will try to do about 30 minutes of a presentation and leave about 30 minutes at the end for questions and answers, because I think that's probably going to be most fruitful for you, unless you see otherwise. I'm happy to be guided by whatever it is that your preference is for how you wish to spend the time with us today. So this presentation that you're going to see is very much what your students would see if they come to our presentations on the MedP program. I think it's important for you to know what they're being told by us, and I'd be very curious to know what kinds of questions you're receiving from them as well. So here we go. Ça, c'est le côté technique pour ceux et celles qui ne sont pas dans la salle. On va commencer avec un petit survol de d'où on est venu, où nous sommes présentement et où on s'en va aujourd'hui. So we're going to give you a little bit of where we're coming from. This is McGill back in the day when we first became the first Faculty of Medicine in Canada. This is the McIntyre Medical Complex now. And hopefully today you'll get a sense of where we are going as well with the curriculum. La faculté de médecine a été fondée en 1823. En 1829, ça a été formellement la première faculté de médecine au Canada. Et nous offrons la plus grande installation de recherche en milieu hospitalier au Canada. So, we also have over 2,000 faculty members, which, and for a total of 4,000 students, total, that's across all of the programs, graduate programs, and all of the other health professions as well that are part of the Faculty of Medicine, so occupational therapy, physical therapy, nursing, communication sciences, and disorders as well. In the MDCM program, we have about 700 students, and just over 50% of those students are female. This is a picture of our hospital, teaching hospital network, an expansive one that is another little glimpse at the future. For those of you who are in the Montreal area, you've already seen this coming down the pipe in various forms, but this is what it will eventually look like. This is the future Glen campus, where our medical students will eventually be doing their clinical training. On a voulu vous donner aussi un survol du programme MDCM. Je sais que parmi vous aujourd'hui, vous êtes un peu axé sur la question MedP, mais éventuellement, les étudiants de MedP, si tout va bien, vont poursuivre les études en médecine dans le programme MDCM. Pour former les étudiants et pour donner des bons conseils, je pense que c'est important pour eux de comprendre l'envergure du projet d'embarquer dans une formation médicale professionnelle. The fundamental premises of the MDCM program are kind of the art and the science of medicine. So the sciences are the pillars, and scientific methodology are the fundamental pillars of knowledge within our curriculum. And to complement that and going hand in hand with that is what we call at McGill physicianship, which is the concept that a physician fulfills two roles vis-a-vis a patient, and that is the role of a professional and the role of a healer. The program is le programme met l'accent beaucoup sur l'aspect clinique et est conçu pour accroître l'intégration des sciences cliniques et fondamentales. C'est vraiment une approche, je sais pas comment dire. It's applied sciences. It's applying your knowledge in the basic sciences in clinical settings. So that is what is sort of the guiding principles of how we present the curriculum to our medical students. Imputabilité sociale. La faculté de médecine en tant qu'une faculté professionnelle avec des obligations envers le public, nous sommes engagés dans notre mission d'imputabilité sociale. Et cela inclut le recrutement d'une population étudiantes diversifiées et d'offrir un programme de formation médicale qui reflète la complexité du public, le public qui sont les patients, les futurs patients de nos diplômés. We are very attuned to our social accountability mission as training future health professionals who will be serving an increasingly diverse public. We want to make sure that not only is our medical school cohort comprised of students representing multiple and plural backgrounds, but they are prepared, well-equipped, irrespective of their own backgrounds, to deal with a very diverse public. And that is part of our social accountability mission. We do this by attending to outreach, community health, targeted recruitment activities, on the basis of our understanding of the demographic of the medical school class. We do a survey every year of students who are coming into the medical school program, and we have a very clear understanding of who is represented and who is not as represented as they should be vis-à-vis the demographic of the population that we're serving. Alors, par le biais de ce sondage qu'on a fait depuis 2009, nous comprenons qu'il y a une sous-représentation des étudiants autochtones, des étudiants noirs, des étudiants en provenance des régions, et les étudiants de socio-economically disadvantaged students, poor students. So we know that the majority of students who are coming into the medical school program are coming from fairly affluent backgrounds, highly educated homes, and we are interested in opening the profession up to as many qualified, motivated people who will bring richness to our intellectual environment. Nous encourageons et invitons les applications, les demandes de candidature, les demandes d'admission de la part des étudiants de toute provenance, comme je l'ai dit. This includes underrepresented ethnic, cultural, racial groups, sexual minorities, all socioeconomic backgrounds. For those of you who are in the room and not in the room, we're very interested in students from rural backgrounds. We understand that rurality is actually a social determinant of health, and we want to make sure that our health professional core is representing rural populations as well, and hopefully we'll go on to serve rural populations and serve them well. This is a photo from one of our outreach activities. This is the Eagle Spirit High Performance Camp that the Faculty of Medicine works with in collaboration with First People's House here at McGill, which is a student services office that serves all of the Aboriginal students on campus. This is a hands-on camp that we do every May. It's the First People's House's camp, and we are partners with them. We also do other activities with medical students. So this is really for younger students. This is students who you might see in a couple of years in your own CGEPs, high school-aged kids. So we have them come in for an Experience Careers in Health event in May, which is an interprofessional workshop, or another program called Regional Initiatives, which is specifically targeting rural and Aboriginal students. If you would like information on those programs, I'd be happy to tell you about them. On a voulu aussi vous donner une perspective sur les cheminements vers le programme MDCM. C'est certain que nous sommes intéressés aujourd'hui par le programme MedP, qui est en jaune à côté gauche ici, où il y a 85 places à chaque année. Mais pour ceux et celles qui ne choisissent pas de faire une demande pour le MedPay ou qui postulent mais qui ne réussissent pas, c'est très important de leur conseiller qu'il y a, c'est pas la fin du monde. Il y a aussi un autre cheminement et ça c'est par le biais d'un baccalauréat normalement en sciences, mais on n'exige pas nécessairement un programme particulier. Sauf il faut avoir les prérequis en sciences. So it's important, I think, for your students to have a perspective not only of the fact that MedPay isn't the only way in to medical school, but also that once they are in medical school, they're a big proportion of the class, 85, but there are many others who are there who come from various different backgrounds, university degree-holding students from Quebec, university degree holding students from outside of Quebec and from the United States and from further afield internationally. We also have pathways for non-traditional students. These are students who will have been out of formal studies for more than 3 years or who completed their undergraduate studies in a part-time basis. Le programme, there's a little acronym there, FNIPNI. Ça, c'est le programme Première Nation Inuit pour les résidents du Québec. This is a specific program that is, in collaboration with the four faculties of medicine in Quebec, as well as the relevant ministers of health and education, as well as the Assembly of First Nations of Quebec and Labrador. There is an agreement to have four places per year across the four faculties of medicine reserved for eligible First Nations and Inuit residents of Quebec. They are supernumerary to all of the other places, and when the four positions are not, if and when the four positions are not filled in a given year, they will roll over. So the program has been in place since 2008, or 7. We're in the last year of the program now. 7? About 5 years, but since then, so we're in a position now where we've rolled over, and this year there are 8 available places. So that means that a student applies to the program, and it's really their choice as to whether or not they want to choose Laval or Sherbrooke or Université de Montréal or McGill, and they get the 4 places or 8 places this year are distributed according to the students' wishes. This is a bit more on the program. Et j'ai inclus aussi le lien. Et je peux vous donner d'autres informations si vous vous intéressez sur ce programme-là. Ça me ferait plaisir de vous fournir ce que vous voulez. Okay, the MedPay program. We're going to save questions till the end. Est-ce que ça va jusqu'à là avec l'équilibre de anglais, français? C'est beau? Tout le monde est correct? Parfait. OK. Ça, c'est un petit snapshot de qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière avec le programme MedPay, avec les admissions. On a reçu 671 demandes d'admission pour une possibilité de 85 places. Parmi ceux et celles qui ont été admis, 61,2% étaient des femmes, avec un ratio de... La ratio est là. Âge moyen de 19 ans et quelques. Cotère moyenne de 34 et 76. En provenance de 27 cégeps. Et nous avons convoqué 200, peut-être juste un peu moins de 200, je pense que c'était 198. Pour les entrevues, on va parler un peu plus en détail sur les entrevues. Je pense que vous avez peut-être des questions là-dessus aussi. So this is a picture of what happened last year in our admissions process. So this is a little bit more detail about the actual MD program that students who successfully complete the MedPay will go on into this program. This is the new curriculum. In 2013, in the fall, the first cohort, so it won't be the class that we're, the MedPs that we're talking about now, will experience the second year of the new curriculum. There's a new curriculum, MDCM, rolling out in the fall. 4-year program. Fundamentals of Medicine and Dentistry for 18 months, which replaces what used to be the basis of medicine, a highly scientifically geared portion of the curriculum that is now going to be still very much grounding our students in the basic sciences, but very much taking up the approach I mentioned before of applying scientific knowledge in clinical settings. Then they will have a six-month transition to clinical practice, which is preparing them to interact with patients. And then they will have core clerkships and senior clerkships. There are a series of themes running through all 4 years. This is an elaborate and very complex curriculum that is, I was gobsmacked when I saw how complex this whole process is of training people and breaking them up into small groups, and very interesting. So these are the themes: physicianship, which I mentioned earlier as the healer and professional, the art side of medical training. Very significant emphasis on family medicine in this particular curriculum. This comes back to our social accountability mission, our understanding that the population is in dire need of more family physicians. We cannot force people to choose a particular practice, but what we can do is expose them in positive ways and in sustained ways to the benefits and advantages of pursuing generalism. So our students will actually be assigned to preceptors whom they will be paired with for the course of the 18 months of their FMD portion of the first part of their program. So over the course of the year, they will have regular interactions with the same family physician in their practice on a repeated basis. Very interesting. Beaucoup d'emphase aussi sur la santé publique, médecine factuelle, evidence-based medicine, la recherche, interprofessionalism, the ability to work in teams with nurses, managers, physical therapists, people who push mops around. They need to be able to work in teams and in a collegial and professional way, and this is part of our training. Concentration on student wellness and career advising, which might be interesting to you. Diversity, indigenous health, patient safety, la déontologie, le professionnalisme, c'est vraiment fait partie de la formation intégrale, ainsi que l'implication communautaire. Les étudiants en médecine vont avoir beaucoup d'occasions de s'impliquer parmi les centres communautaires. En tant que étudiant en médecine. For the medicine preparatory year, I'm going to pass the parole to my colleague who is well known to most of you, Michel Dansereau, who will walk you through the MedP and the eligibility criteria, and then I will come back to you shortly.
Merci, Charmaine. Bonjour tout le monde. Michel Dansereau here. Michel. So I'm going to talk a little bit about in terms of what the preparatory year is. Pour vous dire, le programme de médecine préparatoire, vraiment c'est le programme MedP, c'est un programme de médecine avec une année préparatoire. Donc les 4 ans de médecine que vous voyez, il y a un cinquième groupe qui se nomme Physician Apprenticeship au milieu là, mais les 4 ans de médecine, c'est les 4 ans de médecine de base. Il y a l'année préparatoire auquel les étudiants ont un genre de double rôle. Ils sont admis par la faculté de médecine, mais sont dans la faculté de sciences. So what's the interesting thing about the MedP year that we offer? It's a medical program, and it has the preparatory year before you enter the 4-year program. And in that preparatory year, you are registered with the Faculty of Science, but you are admitted by the Faculty of Medicine. What does that mean? That kind of means actually that I get to take care of these students, or at least I am one of their main contacts. I am the liaison between the MedP students and the faculty as they go through their science curriculum. They'll have a science advisor. They will be there in the faculty and be subject to all of the McGill rules in regards to the exams and all of that, and have access to all of the services as a Faculty of Science student. But they also are a Faculty of Medicine student, so they also have an aspect in regards to answering to the code of conduct, if you will, and, of the Faculty of Medicine. La code de déontologie, par exemple, pour les étudiants de la Faculté de médecine, ils sont assujettis à ceci. Et donc, ils sont enregistrés avec la Faculté de sciences, mais sont aussi des étudiants en médecine, ben, c'est-à-dire des étudiants de la Faculté de médecine. L'année préparatoire comme telle, vraiment, c'est une année qu'on sert pour transition. Ils se sont déjà établis en termes de leur performance académique au collège. Alors, c'est pas une année auquel ils ont un deuxième niveau ou un autre niveau d'admission à faire. C'est pas ça du tout. En effet, ils ont vraiment 6 cours de sciences et 4 cours qui sont au choix. 3 parmi 2 sont dans les sciences humaines, sciences sociales ou même des cours de langue. Puis le 4e, c'est un cours au choix parmi les plus de 300 départements que nous avons ici à McGill. The preparatory year itself, the curriculum about it, the idea behind the preparatory year really is to give a year of transition, to go from the collegial system to the university system before they enter this rather intense and packaged program of medicine. So during that preparatory year, they'll have 6 courses in science, 4 courses that will be at their choice. Well, actually, I should rephrase. 2 courses are obligatory for all students, and in terms of the sciences, they'll have a choice between 12 different tracks of sciences that they can choose from, which includes everything from biology, chemistry, biochemistry, physiology, as well as environmental sciences, geography, earth and planetary sciences, for example. So they will choose a track. It'll give them 6 courses in sciences altogether, and then they'll also have humanities and social sciences. The idea there is that they will have both a science curriculum and an art-style curriculum, so that they will have 2 different ways or multiple ways in which they're working their brain during their preparatory year. Alors, il y en a plusieurs d'entre eux qui sont un petit peu peur à la première fois qu'ils trouvent que, oh non, j'ai une dissertation, une petite dissertation à écrire de 2000 mots. Alors ça, c'est quelque chose en termes de la préparation, quand ils sont typiquement habitués à, disons, par exemple, des choix multiples. Alors c'est vraiment pour avoir multitude de formats en termes d'apprentissage. Puis en termes de qu'est-ce qu'on demande, avant on disait que ce sont les exigences de l'année préparatoire, mais là on ne peut pas dire que ce sont des exigences, ce sont qu'est-ce qu'on s'attend, ce sont nos attentes. These are not requirements to proceed, but rather these are our expectations. Why are we saying this? It's because a lot of students have been putting pressure onto themselves in regards to this preparatory year and trying to pass this preparatory year, and we keep saying it's not an aspect that it's a second level of admission, but we do have to have certain standards as still a part of it, and it's really not that difficult. You have to have a grade, a minimum of B in the compulsory courses, so the 2 bio courses and the 4 science courses according to your track, and that you finish overall with a GPA, a grade point average of 3.5. Donc en termes de qu'est-ce qu'on demande, qu'ils aient un minimum, note minimale de B dans les 6 cours de sciences et une moyenne de 3,5 sur notre système de 4 à la fin de l'année. Et presque 99% des étudiants passent cette année avec ces notes. Si, pour une raison ou une autre, ils n'ont pas ceci, là, on a des options pour travailler avec eux pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Je peux répondre à ces questions-là un petit peu plus tard, mais je veux juste donner le petit aperçu en termes de c'est quoi nos attentes pour l'année préparatoire. En termes des conditions d'admission, bref, faut être résident du Québec, ça c'est la première chose. Et notre guide, c'est le guide de critères selon le ministère d'Éducation, Loisirs et Sports. Donc, c'est le même standard que vous avez pour toutes les autres collèges et universités. En termes de qu'est-ce qu'il faut avoir dans le programme, le premier programme et seul programme auquel ils peuvent s'inscrire, c'est un programme de sciences. Donc, sciences ou sciences, lettres et arts, ou sciences et danse, sciences et musique, et ainsi de suite, mais du moins que c'est un programme à la base de sciences. Et qu'ils sont actuellement inscrits dans le programme, et que dans leur session, leur session régulière, ils ne passent pas en dessous de 6 cours, ou numériquement 13 et 1 tiers crédit, mais le 1 tiers, ça s'excuse un petit peu, mais c'est juste pour vous donner un petit peu de le niveau numérique. So what are the requirements that you are in a science-based program? So when we say science-based, there's science, the main one. There's arts and science. And then there's also those joint programs of science and music, science and dance, those kind of things. So anything that's science-based, that should be your first program in college, right? And that you are doing this without interruption. Interruptions for extenuating circumstances, those are excused or can be excused, but generally speaking, without interruption, and that you are not having any light sessions. And by that, we mean that you have at least 6 courses or, numerically speaking, 13 and one-third credits per session, per regular session at minimum. Oui. Oui, ils ne peuvent pas changer de programme. Je vais rentrer dans cette question-là un petit peu plus tard. On va finir avec ceci, mais c'est une très bonne question. Alors, si vous pouvez la reposer un petit peu plus tard, je donnerai plus de détails à ce sujet. In terms of what we're requiring for the programs, it's a science-based program, so whatever science program that you're choosing, it should have Bio 1 and Bio 2, your 3 chemistry courses. So just a reminder to everyone, Org Chem 2 is not a requirement. Org Chemistry, Organic Chemistry 1 still is. Your 2 math and your 3 physics, right? These would be for your basic science programs. Pour ceux et celles qui font sciences, lettres et arts, vous faites à peu près autant que la même chose que vous pouvez. La seule exigence, je ne veux pas dire absolu, mais fortement, fortement suggéré, c'est qu'ils ont les 2 bio. Le restant, disons, à sacrifier un physique ou quelques cours de physique en raison de ça, ça c'est correct, mais du moins qu'ils ont les 2 bio, parce que c'est les 2 bio qui seront nécessaires pour les 2 autres bio lors de l'année préparatoire. Encore, si vous avez des questions, on aura une période après pour répondre à ces questions. Quelques petites notes importantes. On ne veut pas autant que possible que les étudiants suivent un cours de sciences lors d'une session d'été ou même intersession, mais au moins d'une session d'été. So taking any of the prerequisites during a summer session, that would not be advised. Only if there is some serious circumstances surrounding it, but if it is by personal choice, that would count against them. Same thing if they receive any kind of equivalence. So, for example, writing AP exams, I don't know if your institutions accept that, but AP exams for certain math or calc or physics or whatever, we would appreciate that they do it in class and get an R score with those, as opposed to doing the actual AP exams and getting those credits. Distance education, not for at least any of the sciences, for sure we wouldn't want that. And then in terms of credits or courses, again, we want to make sure that you have 6 courses per regular session. Alors, les cours à distance, on veut éviter ça autant que possible. Sont permissibles, encore, toutes les choses sont permissibles si les circonstances sont en sorte qu'il n'y a pas d'autre choix. Mais, généralement, on veut éviter les cours de distance. Les cours d'été sont permissibles si, 1, ce ne sont pas des sciences, et 2, c'est vraiment quelque chose pour, on va dire, ajouter au programme. So, summer courses are perfectly acceptable if it's not a science, not one of the prerequisites, as on the previous slide, and that it's something that they are kind of adding to their program, right? So it's not necessarily a requirement to their program. And I will now return, encore un petit rappel, on a une période de questions après. I'll return the floor to Charmaine.
Merci. Okay, selection criteria. Now this is what happens once the applications are in. le dépistage. The first screen that we do of applications is weighted heavily on academic performance, 70%. The 30% that you see for non-academics is the evaluation of personal statements, which is 20%, and the CV highlights, which is the short piece of writing that the student has to do, a sort of choice of the three things on their CV that that they think the admissions committee needs to understand about them. So that is the basis of our first screen to determine who will come to the interview. So we do this for 671 people. We did that last year anyways for the 671, to get to the 200 who will be invited for the interview.
Dès qu'on est au stade de les entrevues, c'est entièrement sur la performance dans le mini-entrevue multiple. Si un candidat ou une candidate est invité à une entrevue et qui passe les entrevues, ça fait en sorte que la candidature, la candidature va être évaluée par au moins 14 personnes dans le comité.
This is a very fulsome, deep review. We put a lot of work into this process. We are very committed to the training of our evaluators. 70% of our evaluation team are physicians. About 15% of the evaluators are learners, so medical students or medical residents. And the other 15% are community members, which could be allied health professionals, admissions professionals, administrators within the Faculty of Medicine or within the hospital networks, who have frequent interactions with medical students and medical learners. They're all trained by us every year, and they take their job very, very seriously, and we take our job of ensuring that they are well trained and well supported and conducting a very tight process. We take that all very seriously. So I think that's important for you to know and for your students to know.
Ça, c'est juste le texte pour expliquer le graphique que vous avez vu. Une autre petite note, la langue, l'institution de provenance, programme d'études, ce ne sont pas les critères de sélection et ils n'ont aucun impact sur l'admissibilité d'un ou d'une candidat ou candidate.
This is a question that we get all the time from students and from counselors. It is blind to those questions. The process is really looking at how each candidate presents their file according to the criteria that we've asked them to present to us.
Les questions de base, ce sont les questions que vous pouvez voir sur notre site web et que nous encourageons les candidats d'aller voir et de réfléchir là-dessus.
These are the sort of guidance counselor questions that we actually ask the students to reflect on. And when we talk to students and when we talk to them in February, we'll be doing an information session like this in February for students. These are the kinds of questions that we really think they need to ask themselves in preparation for deciding whether they want to apply to this program, deciding whether they want to apply to any of the other programs in medical training, and how to formulate things like their personal statements, their CV highlights, their CVs. This is really the fundamental question that they need to look in the mirror and ask themselves every single time.
Oui, c'est très important d'avoir, vous pouvez voir, est-ce que je suis en mesure d'entreprendre un programme assez exigeant. Le programme, c'est pas facile. Alors, il faut avoir un dossier académique assez fort qui démontre la capacité d'entreprendre des études intenses. Mais ça prend beaucoup plus que ça aussi. Alors, it's not just a great R-score that will make you a great doctor. Given what we've shown you already about how we present the curriculum and the combination of putting together strong academics with humanism, the people who will rise to the top of our process will have shown us strong academics and then must show us that amongst this very strong academic group of kids, those students who are best able to demonstrate maturity, the ability to make decisions, the ability to be responsible for their own decisions, self-awareness, self-reflexivity, connection to the world around them, those are the candidates who will do well in our interview process, who will do well in the non-academic evaluation parts of our process, and who we believe will be better physicians at the end of the day. Core competencies. I tried to make this one slide, but it was too many words on one slide, so we have two slides here, one in English and the following one will be in French. But basically, these are the kinds of qualities that we're looking for in all of our candidates. I'm going to flip to the French one now so that you can see the French one too. C'est exactement pareil, mais c'est la traduction. Je ne vais pas le lire, vous êtes capable, puis j'imagine que vous êtes assez au courant de ces compétences. Submitting an application. Ça, vous êtes tous au courant. il faut compléter les demandes d'admission avant le 1er mars. Et ensuite, il faut fournir et nous faire parvenir les documents requis, le laissez personnel et le CV highlight, par le biais de notre système Minerva, par le document upload, ce qui est nouveau. Pardon? C'est nouveau pour nous. Les mini-entrevues multiples. Si un candidat est invité ou convoqué pour une entrevue, les dates sont déjà fixées. C'est sur le site web. C'est le 15 et le 16 avril cette année. Je vais vous décrire un peu comme le format, mais le principe de la mini-entrevue multiple, c'est de permettre l'évaluation des capacités, des habiletés que je viens juste de vous présenter. We have moved away from the traditional interview, where a person sits in front of two people or three people and talks about themselves, and we move them into a whole other way of evaluation, and that is putting them through a series of short interview scenarios. There are 10 stations in each circuit, so one candidate will go through 10 8-minute stations that test all of those competencies that I showed you earlier. These competencies are linked to our physicianship curriculum, the humanist side of being a physician. Et les candidats peuvent demander de faire les entrevues soit en anglais, soit en français, selon leurs préférences. En fait, dans l'application, sur le site web, dans le web app, si un candidat indique qu'il veut être communiqué, il veut avoir ses communications en français, on va présumer que la personne veut vouloir passer leur entrevue en français, et le moment où on invite la personne, on va dire, ben, vous avez indiqué que vous voulez nous communiquer en français, nous vous offrons une place pour les entrevues en français, mais si la personne veut changer, ils peuvent nous communiquer cette préférence aussi. Each circuit, 10 stations, 8 minutes with 2 minutes in between to rest. And there's a new circuit every day. So we will have, for reasons of the integrity of the process and making sure that it's secure and that we know that they talk to each other anyways, so we give them new stations every day, but they are blueprinted so that they are testing the same things every day, equivalent. Il y a trois formats. Ça se peut que le candidat va être présenté, mais en fait, they will be presented with all three of these formats. Il y en a des mises en situation avec les comédiens qui sont formés et qui font partie de la cohorte des comédiens qui travaillent avec les étudiants en médecine avant qu'ils entreprennent leur externat. Il y a aussi des entrevues qui semblent plutôt comme des entrevues traditionnelles, a discussion with the interviewer about a topic. They will sit down in a room. The person who is evaluating them will be talking to them. Or they might be asked to do a task. And they will either be with somebody in the room with them, evaluating them, or they will be observed. Well, We'll save that for later. We will answer your questions. So I think that that's the end of the formal presentation. I'm just going to put this one back on so that people can send us their questions. We will move to Q&A now. I would ask, especially because we have people watching us by web stream, if you have a question, please come to one of the microphones. And if you don't do it, I'll repeat the question. But we need to be on a microphone so that the people web streaming with us can hear your questions. C'est beau?
C'est beau.
Pas de questions?
Non. Il y avait la première question en termes de c'est quoi une entrevue de tâche? Est-ce qu'on veut, c'est quoi une tâche? Est-ce qu'on veut rentrer là-dedans? Is that the question? Right.
What is it not? Okay, so MMIs will never, a student will, first of all, they will never be asked or expected to have medical knowledge. Okay, so they're not expected to know how to do CPR on anybody or anything like that. They will be, I don't know how to describe it without giving it away.
Well, actually you don't. what we do want to say in regards to the three types is that in a task-based kind of scenario, there's actually nobody in the room. You are given a task, instructions, and you go on your own. Donc c'est ça l'aspect en termes d'une tâche. C'est que il y aura personne dans la salle et donc les instructions seront sur papier ou peut-être en dessin ou je sais pas quoi, mais c'est pour dire que la personne n'aura pas besoin d'attendre pour quelqu'un à dire OK là commence vas-y ou ainsi de suite, si les instructions sont là, donc c'est ça en termes d'une tâche, ils ont une tâche à accomplir. So. IKEA furniture, I guess it would be an interesting example. Yes, graphic representation, and you have to build something in 8 minutes or less.
With no Allen key.
Yes.
Bonjour.
Bonjour.
Hélène Trudeau, Cégep Saint-Jean sur Richelieu.
Enchanté.
I have two questions, please. Allô, Michel.
Bonjour.
J'ai deux questions, s'il vous plaît. Une concernant la... J'aimerais savoir... c'est parce que je vais me faire confirmer, je ne me souviens plus. Lorsque les étudiants font le, how do you say that in English, the core clerkship and senior clerkship, est-ce qu'ils sont rémunérés? Et puis l'autre question, je la pose tout de suite.
Ouais, je vais répondre celle-là tout de suite. OK. En termes de les deux années d'externat, ils ne sont pas rémunérés à ce point-là. La rémunération se passe quand ils font leur résidence. Donc, ces deux années d'externat, ces 2 ans du programme total de médecine ne sont pas rémunérés.
Merci. Les étudiants en sport-études, comment leur candidature est-elle évaluée? Parce que souvent, ils vont faire comme 30 heures d'entraînement par semaine. Mm-hmm. Donc, ils ne font pas leur cégep habituellement en 4 sessions.
Les étudiants qui font programme sport-études, soit officiellement ou très près d'eux, il y a un formulaire qui se trouve sur notre site web. Ils ont à compléter ce formulaire qui décrit combien d'heures ils se dédient pour l'entraînement, pour les compétitions, et ainsi de suite. Et qu'on prend ça juxtaposé avec leur dossier académique. Et donc, sont traités, je ne veux pas dire à part, mais sont traités de façon auquel ils auront beaucoup d'exceptions. Compléter la session, compléter leur programme dans les 4 sessions ou 6 sessions, dépendant du programme. Pas prendre des cours d'été, même des cours à distance, ces choses-là, on peut les excuser quand ils ont un sport d'études. Mais il y a un formulaire, j'ai un exemplaire ici, mais c'est sur notre site web aussi, qui est vraiment détaillé. Alors, on a besoin de cette information-là, détaillée et exacte. So to answer that question in English, in regards to sports and studies, what happens if there's a student who is doing sport études? Well, if they're doing sport-études, they're pretty much exempt of a lot of the things, such as having to complete their program in the prescribed time, having a minimum of 6 courses per session. We would want them as much as possible to follow the program with their peers, but obviously if they're doing their sports at a high elite level, we would take that, all of that information into consideration. In fact, there is a form on our website that students should go in and fill, and have signed by their coach that explains how many hours they're dedicating to this, that, and then we will take that along with their transcript and put that information together.
Bonjour.
Bonjour.
Excusez, je... Ouais, problème de voix. Linda Rodrigue, Collégiale Internationale Sainte-Anne. J'ai lu dans votre présentation, on en a beaucoup parlé des dernières années, du nombre qui descend d'année en année chez nos garçons. Alors, encore une fois, c'était confirmé à 60% chez les filles. Puis, d'un autre côté, vous dites que vous essayez de faire un balan parfait entre les différentes... qu'on retrouve une diversité complète. Alors, j'aimerais ça que quelqu'un essaie de m'expliquer pourquoi à chaque année, on descend le nombre de garçons et pourquoi.
C'est une très bonne question et je suis contente que on a parmi nous aussi la directrice des admissions et la directrice de recrutement pour l'université. Ce n'est pas une question qui est restreinte à notre faculté. C'est un phénomène qu'on a aperçu parmi tous les programmes professionnels, parmi tous les programmes universitaires. Nous sommes conscients, nous n'avons pas adopté des programmes particuliers pour aller cibler les garçons, mais nous sommes très conscients de ce fait, par exemple, dans la conception de nos entrevues. Ça se peut, vous pouvez imaginer que quand on fait des citations ou des scénarios qui peuvent évaluer, qui permettent l'évaluation de l'empathie, compassion, communication, ça se peut que ça avantage peut-être des filles ou des femmes. Et nous essayons beaucoup, on met beaucoup d'attention là-dessus pour avoir des stations qui that don't disadvantage boys. It's a very delicate thing to actually try to work out in that kind of setting, but that's a place where we feel like we can actually do something to level the playing field on those soft skills that we're looking for, to test for things that boys might actually do very well on, and so might girls, but to try to make it not too quote-unquote feminine, and I cringe when I'm saying that, because there are other issues there as well. Est-ce que ça répond à votre question? C'est quelque chose qu'on observe et qu'on suit,
ouais.
Mais qu'on n'est pas en mesure de mettre en œuvre un programme ciblé.
Et donc, ça répond bien à la tarte que vous avez montrée, dans le fond, que 70, l'étude du dossier en premier lieu, c'est vraiment 70% au niveau académique, donc c'est là que les filles vont sûrement scorer supérieur aux garçons. C'est clair?
Ça, est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a regardé les chiffres à ce niveau-là?
Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on voit, c'est que au niveau collégial, l'admission directement du collégial, oui, il y a plus de femmes qui sont sélectionnées, pas seulement à McGill, mais pour les autres facultés de médecine. Nous, on a aussi un processus qui admet des étudiants au niveau universitaire auquel c'est l'opposé. Donc, à la fin de la journée, la classe devient presque 50-50.
Oui, vous avez vu le chiffre tantôt, c'était 54%. Okay. C'est un peu plus équilibré dans la classe MDCM. Oui.
Il y a eu un petit drôle phénomène que je ne peux pas expliquer, mais il y a 2 ans, notre classe d'année préparatoire, c'était totalement opposé. C'était 2 gars pour chaque fille. C'était quelque chose, un phénomène, on ne peut pas mettre notre doigt dessus.
Je pense qu'on devrait tous vraiment s'attarder à ce phénomène-là. On en parle beaucoup, nos garçons, on les voit de moins en moins dans les facultés de pointe, et puis il faudrait peut-être regarder ça, mais tout le monde en parle, mais personne ne fait rien. C'est pas ça.
J'aimerais juste ajouter...
Deuxième petite question, parce que c'est un commentaire que je fais. Au collégial, nos élèves partent en deuxième année, deuxième session, à l'extérieur, à partir du 1er avril jusqu'à la fin mai, donc la dernière année, dernière session. Et là, je sais que vos entrevues en médecine se passent durant ce temps-là. Mm-hmm. Et je voulais savoir s'il y avait quelque chose qu'on pouvait faire à ce moment-là. C'est vraiment fixe, puis il faut que je fasse revenir mes élèves.
Oui, c'est très, très fixé. Okay. Vous pouvez imaginer que la production de cet événement-là, on ne peut pas.
D'accord. Mais je vous remercie.
Okay, merci. I just wanted to add one more thing about boys. Very interesting on the diversity issue as well. We've observed also that where you have students coming from marginalized backgrounds, those who actually make it into our programs or into elite programs or professional programs, typically if you're from a marginalized background and you make it, more often than not, you're a girl. So there's something going on there too that we're not quite sure how to understand or appreciate, but there's something that we're observing there as well. So interesting for you to know. Je ne sais pas si peut-être on peut prendre une question. Est-ce qu'il y a des questions qui... Non, c'est beau? OK. OK. J'espère qu'ils sont là. I hope they can hear us. Oui.
Bonjour. Donc, je vais répéter ma question de tantôt. Ça l'avait attrait que j'étais surpris de constater qu'un des critères, c'était que la personne ait fait un seul programme au niveau collégial.
OK. Oui.
Alors, leur premier programme doit être un programme de sciences. Qu'est-ce qu'on peut accepter, c'est que des programmes d'accueil, par exemple. On peut aussi accepter, genre, ils font une session d'apprentissage de l'anglais quelque part d'autre, mais leur programme comme tel doit être un programme de sciences. En bref, nous, à McGill, on prend le code de rendement global. Et pour que les étudiants, pour que ça soit juste et pour d'autres raisons aussi, leur premier programme, c'est un programme de sciences. Qu'est-ce qu'on peut accepter? C'est, disons, qu'ils font sciences et musique, et ensuite ils décident, je veux plus prendre musique, alors ils réduisent leur programme et ils gardent toujours la base de sciences. Mais s'ils commencent, s'ils font un semestre en sciences humaines, ou dans un autre programme et ensuite change dans un programme de sciences. À ce point-là, on dirait ça serait mieux que vous faites vos préalables en sciences pour rentrer dans un programme de baccalauréat universitaire et faire votre demande d'admission après l'université ou avec votre université.
Bonjour, Christiane Sacmans, Collège Jean de Brébeuf.
Enchantée.
Merci. Petite question, en fait, juste pour avoir une précision. Pour D'accord. nos étudiants du baccalauréat international en sciences, comment vous considérez leur admission? Est-ce que vous leur demandez des choses particulières en termes de cours? C'est comme pas tout à fait clair. Pour le BI sciences.
Pour le programme de sciences cheminement BI,
oui.
Est-ce qu'il y a d'autres choix de cours? Est-ce que c'est ça la question?
Non, ou
est-ce que
c'est qu'en fait la question et surtout, comme on peut pas le comparer au DEC sciences,
oui.
Parce que c'est pas exactement la même chose. Je me demandais comment vous les considériez lors de l'admission en médecine.
En bref, leur admission serait considérée avec tous les autres. Leur cote de rendement serait le 70%. Et eux autres, ils auront une bonification, mais c'est une bonification qui est ajoutée au niveau de la CREPUC. Alors, oui. On le reçoit déjà avec ça. Et c'est le restant, on espère, qui se distingue dans leur texte.
Et on leur demande pas de cours supplémentaires.
Mais les préalables, est-ce que c'est interview?
Mais en termes des préalables, c'est à peu près la même chose comme sciences, lettres et arts,
oui.
Auxquels ils doivent avoir les deux bio.
Okay.
Et chimie organique autant que possible. En effet, chimie organique, on aimerait ça beaucoup. Le physique, c'est celle qu'on peut sacrifier. Okay. Là, à ce point-là, ils seront évalués. S'ils sont admis et on remarque qu'il leur manque un cours de physique, leur cours au choix, c'est, ils n'ont plus de choix. C'est physique.
Parfait, merci.
De rien.
Oui, bonjour. Chantal Gingras du Collège Bois de Boulogne.
Enchantée.
On se connaît bien quand même.
Oui.
Votre diagramme, là, le 70-30, là, le 30, je comprends bien, c'est le CV, c'est ce que c'est ça? C'est le nom académique?
CV
Highlights. C'était pas tout à fait clair, là, le 30%, c'est quoi que ça concernait?
C'est l'essai personnel.
C'est ça, l'essai?
Excuse-moi. C'est la 30%, c'est 20% sur l'essai personnel, ce qui est, je pense, 700 mots. Et l'autre, c'est l'effet saillant du CV. Alors, c'est pas le CV au complet, c'est un texte de 350 mots à peu près, ciblant trois aspects de leur CV qu'il veut présenter au comité avant qu'il prenne la décision sur les convocations pour les entrevues.
Je répète encore, c'est l'essai et un abrégé de CV.
Oui.
Il n'y a plus l'essai et abrégé, puis
non.
CV, puis abrégé.
Non, vous avez raison. Il y a plus...
C'est important de le dire.
Oui, oui.
C'est une grande différence,
oui.
Là. Et vous n'avez plus de lettre de recommandation.
on n'a plus de lettre de recommandation.
Vous l'avez même pas dit.
Mais c'est comme c'est pas là. Bien. Alors.
Mais c'est très important. C'est une grande nouveauté cette année.
On va l'ajouter à, au slide.
Alors.
Répétez, s'il vous plaît.
Alors, je vais reprendre.
Oui.
Pour déposer une demande d'admission, il faut écrire un texte. Ces textes sont rentrés dans un formulaire qui est disponible sur notre site web. Okay? Donc, ils téléchargent un formulaire, ils travaillent dans le formulaire et ensuite ils téléversent le formulaire complété dans leur dossier. Deux textes sont très importants pour la première phase, la première sélection. Un exposé personnel, qui est à la même base qu'on avait avant, mais au lieu de 1000 mots, c'est maintenant 700 mots et il n'y a plus d'abrégé de ce texte. Donc, un essai personnel, un exposé personnel à 700 mots. One 700 word essay, a personal statement really, where they will be using a form on the website to submit this, right? And so there's no more abstract. Okay. And then the other text is what we call CV highlights. It's where they take three things of their CV and they highlight these to us in their own little text of no more than 300 words. Je ne veux pas dire que c'est un abrégé du CV, mais c'est vraiment auquel ils choisissent trois choses et le texte, c'est vraiment pour voir c'est quoi ces trois choses. En effet, le texte, c'est pour voir c'est quoi qui te distingue d'après toi. Puis donne-nous trois choses qu'on pourra trouver dans ton CV qui, d'après toi, te distingue. Et le grand texte, l'exposé personnel, c'est qu'est-ce qui t'apporte à faire cette décision-là?
Donc, ça, c'est évalué avant l'entrevue.
Ça, c'est avant l'entrevue. Le CV est toujours partie du processus au complet. Le CV est vraiment genre une station du MEM.
Ah, OK. Donc, c'est l'essai et les notes avant l'entrevue.
Avant l'entrevue. Le CV est utilisé comme quelque chose, corroborative evidence, quelque chose qu'on peut utiliser en termes de la révision, mais son poids vient vraiment aux entrevues. Le CV lui-même. Okay.
C'est beau. Merci.
De rien.
Oui. Hi. I'm Pauline Gregoire from Marianopolis.
Hi.
I've been sent by a student to ask a very specific question, so I hope you don't mind. But typically, our students in second year science have 12 courses left to complete in their program, so two semesters with six each. A student wants to know if he can take one of his fourth semester courses in semester three, so dividing his courses into seven and five, meaning his last semester would not be a full semester. Do you care?
The general answer would be we would hope to see a minimum of six for all semesters. If there's a particular reason, we could take that question offline for that specific case. But in a general case, six courses per semester. Did I say six semesters? Sorry. Anyway, six courses per semester minimum. We want them to see that they can balance everything. Right?
Okay, even though the last semester is not being taken into account at the admission stage.
It is taken into account. It is taken into account, obviously, once the person receives the offer, but it is part of the evaluation, yes. So we want to see that. And if there's particular reasons for it, we would definitely hear them. But as a general answer, don't surcharge toi-même. Don't overload yourself.
The other question
to the sacrifice of another semester.
Right. The other common question I get is, what happens if my R score in fourth semester is lower than the one I applied with after third semester?
One of the conditions of admission, for those who may or may not know, is that we have an expectation that the fourth semester is at, as we quote, at a level comparable to the other three semesters. When we say that, we mean it's just that we want to see that you're still having a kind of, you know, your standard, if you will. If there's a significant, and how do we mathematically say it's significant, I don't know. But really, if there's a significant drop, then we will ask the question, what happened, right? So it won't be an automatic. But it's just to ensure that students are still putting that same amount of effort and work in their final semester as they did in all of the other semesters. Pour répondre à cette question en français, une des clauses en termes de leur admission dit que on s'attend que votre quatrième session ou session finale, c'est à un niveau comparable des trois autres sessions que vous avez eues, auxquelles vous avez été convoqué pour une entrevue. Et beaucoup des étudiants pensent, oh mon Dieu, j'ai baissé de 0.002 dans mon cotère. Ah, c'est la fin du monde. Mais c'est pas du tout ça. En effet, qu'est-ce qu'on veut voir, c'est que il y a une certaine consistance en termes de leur performance. En effet, dans les 7 ans, dans les 8 ans que je suis ici, je pense qu'on l'a juste utilisé une fois. Puis c'était vraiment une cause exceptionnelle. Donc, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est là pour s'assurer que le niveau de travail est toujours là, mais c'est pas quelque chose que les étudiants devraient se craindre s'ils sont, ici, ils ont une baisse d'un petit moment, d'un petit pourcentage ou d'un petit cut. Oui?
That's okay. I'll repeat your question. Sorry. 3 questions. Okay. Let me get my pen. No. I just need to repeat the question.
Right, sorry.
Does the participation in phys ed intensives make somebody ineligible? Is that the question? The answer is no. Second question. Do they do it in their prep year?
No.
Let me repeat the question. Does... If students do not complete Organic 2 in their CGEP, will they have to do it in the MedP year? And the answer is no.
Getting back to system d'accueil or developing mm-hmm. exploration science, students... So if I understand correctly, in that semester, they should not be taking anything else other than their reasonable courses so that they can then...
Oui, yes. Si, da. Yeah.
The question
is, if you're doing a mise à niveau or session d'accueil, or what was the English?
Developmental science,
explorations, those kind of things. If you're doing that, and this is, as I mentioned before, an exception that we can allow. Before you start your science program, we would want as much as possible for the student to do those exploration sciences courses, whatever, those discovery courses in their own session so that when they start their science session, it doesn't have to be starting in September, could be starting in the January, but when they start, they're starting with their peers. That's the whole aspect of that. Donc, si les étudiants font commencent une session d'exploration, d'accueil, c'est-à-dire, on apprécie que durant cette session-là, ils font leurs cours strictement pour la session d'accueil et qu'ils font le restant de leurs cours avec leurs pairs en termes de grandes charges, sessions et ainsi de suite. Alors, comme ça, on peut voir très clairement sur leur relevé, ça c'était session d'accueil et ça c'est les 4 sessions de sciences, par exemple. Merci.
Jocelyn.
Bonjour. Oui. Jocelyn Younan,
oui.
L'Université McGill. Pouvez-vous nous parler des bourses qui sont disponibles pour les étudiants, scholarships that are available, and what's the process for them to apply for them? And are they different than the way the rest of the applicants in the university go through scholarships?
They are not different than the rest. So all of the students who apply into the MedP program are eligible for the entrance scholarships that are offered through the university to any student who is coming to university studies for the first time. There is no application required except for the major scholarships. There are links on our website for student aid. We also have a lot of bursaries, and student aid is there for students who are not able to pay for their studies or who have difficulty paying for their studies. Once the students make it into the MDCM program, they are also eligible for the Faculty of Medicine administered entrance scholarships to the MDCM program. And those are also, they do not require applications except for one. We have one entrance scholarship into the MDCM program that requires an application, and that is on the basis of a person's ability to demonstrate that they would contribute to the diversity of the program and of the profession. Does that answer your question? Okay. On est 14h38, on a dépassé par 8 minutes. Je pense qu'on a fait le tour. Oh oui, il y a pour vos informations et pour les étudiants, nous allons offrir une session d'information sur le programme MedPay pour les étudiants le 5 février à 7h. À 19h, à la Faculté de médecine. Les détails sont sur notre site web, sur le site web du Bureau des admissions pour la Faculté de médecine. Nous engageons de faire un web stream aussi. Les détails suivent. We will try to make it available to students who are not able to come to the event so that they could do what our CTIP counselors did today and watch the event live. By way of the internet. We will also provide the PowerPoint and a recording of this session today on the counselor's website through enrollment services. I'm very grateful for having had your ears for this. I know it's hard after lunch to come and stay awake, but we're delighted to have been here with you. And if there are any other questions, feel free to fire them off to us and we will answer them happily. Merci beaucoup.
Merci.
Bonne route.